Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Nous poursuivons notre série sur les maladies vasculaires du foie et aujourd'hui nous nous intéressons particulièrement à la thrombose de la veine porte. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir les docteurs Laurel Krief et Emmanuel de Rocourt. Docteur El Krief, docteur de Rocourt, bonjour.
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 Docteur El Krief, vous êtes hépato-gastro-entérologue, maître de conférences universitaires et praticien hospitalier au sein du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Trousseau du CHU de Tours et clinicien au sein du centre de référence des maladies vasculaires du foie. Docteur de Rocourt, vous êtes médecin biologiste médical et praticien hospitalier au sein du service d'hématologie biologique de l'hôpital Beaujon à Clichy. Vous êtes responsable également de la clinique des anticoagulants de l'hôpital Beaujon. Alors, docteur El Krief, docteur de Rocourt, on parle aujourd'hui de la thrombose de la veine porte. Ma première question est très simple. Qu'appelle-t-on thrombose de la veine porte ?
Alors, pour ça, je pense que on va répondre en deux parties. Et il me semble important de rappeler ce que c'est que le système porte. En fait, le système porte, ce sont l'ensemble des veines qui prennent leur origine dans la rate, le pancréas et le tube digestif et qui aboutissent au foie. Le système porte, en fait, il s'ajoute à l'artère hépatique pour irriguer le foie. Et en fait, c'est très particulier parce que le foie, c'est le seul organe qui est irrigué à la fois par une artère, ça c'est comme les autres organes, mais aussi par une veine, et c'est ça qui est unique. Et en l'occurrence, il s'agit de la veine porte. En fait, la veine porte, elle naît de la convergence de la veine mésentérique supérieure, qui provient de l'intestin grêle, et de la veine splénique, qui draine le sang qui vient de la rate et du pancréas. Elle se divise ensuite en deux branches, les branches porte droite et gauche, et ensuite, ces deux branches porte droite et gauche se ramifient en petites veines à l'intérieur du foie. Alors, la thrombose porte, en fait, ça correspond à l'obstruction du système porte, une ou plusieurs de localisations dont nous venons de parler, par un caillot de sang. Et en l'absence de maladie du foie ou du pancréas, la thrombose de la veine porte, c'est une maladie rare, avec une incidence qui est d'environ 1 pour 100 000 personnes en France.
Alors, c'est une pathologie qui est vraiment multifactorielle, la thrombose, hein, qu'elle soit dans le foie ou d'ailleurs dans d'autres localisations. Et on a classiquement trois paramètres qui vont intervenir pour induire la survenue d'une thrombose. La première chose, c'est la stase sanguine, qui est vraiment quelque chose de tout à fait prédisposant à la thrombose. Hein, et dans les maladies qui sont liées à des maladies du foie, par exemple la cirrhose ou l'hypertension portale, va entraîner des modifications du flux qui vont prédisposer à la thrombose, qui n'existe pas évidemment dans les thromboses portes non cirrhotiques. Le deuxième paramètre qui va intervenir, c'est en fait l'hypercoagulabilité, c'est-à-dire c'est le sang qui a une tendance à être plus procoagulant. On sait que la coagulation, en fait, est une balance physiologique assez fine, avec d'un côté des facteurs procoagulants hein, qui vont éviter le saignement, et de l'autre côté, il y a tout un système de freins, d'inhibiteurs, et en fait, la coagulation est en permanence en balance entre des risques prothrombotiques et des risques hémorragiques. Et de temps en temps, cette balance est un petit peu, on va le voir, modifié et plutôt vers un versant prothrombotique. Et on verra ça dans les déficits constitutionnels en inhibiteur de la coagulation ou dans des déficits acquis. Et puis enfin, il y a un troisième paramètre très important qui va intervenir, qui est beaucoup moins bien connu en fait, parce que beaucoup plus difficile à étudier, c'est la paroi vasculaire. On sait que l'endothélium sur les veines va avoir vraiment un effet anticoagulant, enfin plutôt antithrombotique. Il y a plein de protéines et d'éléments à sa surface qui va freiner la coagulation. Et on sait que les lésions endothéliales vont avoir un rôle important dans le déclenchement de la thrombose. Mais on connaît moins bien parce que c'est difficile à étudier, mais il y a pas mal maintenant d'études qui commencent à montrer des microparticules activées endothéliales, etc. Ce qui est vraiment important de bien comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas en général une cause à une thrombose. C'est un ensemble d'événements qui vont s'additionner et qui vont entraîner la survenue de la thrombose à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose de très multifactoriel. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard que quand on fait un bilan, il ne faut pas s'arrêter à un élément, mais toujours avoir un ensemble pour essayer de combiner les différentes anomalies qui pourraient prédisposer à la thrombose.
Alors, si on s'intéresse à la clinique maintenant, docteur El Krief, quels sont les principaux symptômes d'alerte qui doivent faire penser à une thrombose de la veine porte ?
Alors, bon, les symptômes d'alerte, si on parle d'abord de l'obstruction récente de la veine porte par un caillot ou la thrombose porte récente, eh bien, les manifestations au premier plan, ce sont des douleurs abdominales. Et le plus souvent, ce sont des douleurs abdominales qui peuvent être très intenses, avec de la fièvre, un syndrome inflammatoire, et il peut même y avoir un arrêt du transit intestinal. C'est des manifestations qui peuvent être soit très brutales et qui peuvent sinon être modérées à sévères et qui peuvent durer plusieurs jours. Et c'est vrai que dans ce contexte, on évoque le plus souvent une pathologie chirurgicale parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'une thrombose de la veine porte. Et le diagnostic, il est posé par le scanner qui est effectué en urgence. Ce qui peut être un peu plus troublant et plus difficile, en fait, c'est que parfois la thrombose porte, elle donne peu de symptômes, voire même pas de symptômes du tout. Et en cas de symptômes minimes, il n'est pas rare que ces symptômes soient attribués à des causes plus banales, comme une gastro-entérite ou une pathologie digestive plus banale. Et puis enfin, il y a un autre cas qui est que... Parfois, les malades peuvent avoir des rectorragies et dans ce cas, l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser d'abord à une maladie intestinale et d'effectuer plutôt des examens endoscopiques digestifs qui vont retarder la réalisation d'un scanner abdominal.
Et au final, comment affirmer le diagnostic de thrombose de la veine porte ?
Alors, c'est vraiment l'imagerie qui est l'examen de première intention et qui permet de poser le diagnostic de thrombose de la veine porte. Alors, quand on parle d'examen d'imagerie, il y a effectivement l'échographie abdominale, mais l'examen qui va confirmer le diagnostic, c'est le scanner abdominopelvien injecté, donc avec une injection de produits de contraste, notamment avec une acquisition des images à la face portale, donc avec une opacification de la lumière des vaisseaux portes et qui va pouvoir mettre en évidence le thrombus dans la lumière de la veine porte ou d'une de ses branches. Et probablement que ce qui a permis une amélioration des cas diagnostiqués, c'est que le scanner abdominal est devenu l'examen de première intention dans les services d'urgence où les malades consultent pour des douleurs abdominales et ce qui permet d'augmenter le nombre de malades qui ont un diagnostic précoce.
Alors une fois ce diagnostic confirmé, docteur de recours, quel bilan réaliser pour identifier les causes d'une thrombose de la veine porte ?
Il va falloir faire un bilan relativement exhaustif et relativement étendu pour rechercher un peu tous les facteurs de risque connus qui peuvent déclencher ces thromboses. Et la première chose vraiment à faire, c'est rechercher un syndrome myéloprolifératif, tout particulièrement avec la mutation de JAK2, puisqu'on sait qu'on va retrouver dans à peu près 30% des thromboses portes non cirrhotiques une maladie de ce type. Et c'est très, très important de faire le diagnostic parce que la prise en charge hématologique va être très importante pour éviter l'extension et la récidive de la thrombose. Donc, c'est la première chose à rechercher, un SMP, avec cette petite particularité qu'il y a souvent. Il y a un peu un piège pour les hématos s'ils ne sont pas ils ne connaissent pas très bien ces pathologies, car comme il y a une hypertension portale et un hypersplénisme, les taux d'hémoglobine et de plaquettes, surtout, est beaucoup plus bas que dans la population générale. Donc, quelquefois, avec une numération qui peut paraître normale, elle est en fait tout à fait anormale par rapport à la pathologie. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait une très, très bonne collaboration entre les hépatos et les hématos à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième maladie hématologique qu'il faut aussi tout de suite rechercher, bien qu'elle soit celle-là vraiment très rare, mais par contre, le traitement est très important, c'est les clones HPN, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est très rare, mais dont la prise en charge thérapeutique également est très importante. Ça, c'est les deux maladies acquises de l'hématologie qu'il faut rechercher. Ensuite, on va faire un bilan de thrombophilie, donc la plus classique constitutionnelle, qui est la recherche des inhibiteurs, donc l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. On va regarder les mutations du facteur 5 Leiden et la mutation G20210A du facteur 2. Ça, c'est tout ce qui est constitutionnel. On va ensuite rechercher un syndrome des antiphospholipides, donc avec des techniques à la fois ELISA et à la fois de coagulation. Et puis, on va rechercher des choses beaucoup, beaucoup moins biologiques, qui sont est-ce qu'il y avait une contraception ? On va regarder s'il y avait une obésité. On va rechercher les antécédents. C'est très important de thrombose dans la personnelle ou familiale, parce que si on a déjà fait des thromboses, le traitement va être un peu différent, en tout cas la durée du traitement. On va évidemment rechercher le cancer, l'infection, l'inflammation, qui peuvent être aussi des facteurs qui peuvent être tout à fait... également déclencheur, en tout cas favorisant la thrombose, et puis des choses plus rares comme la maladie de B7 ou la maladie cœliaque. Mais comme vous voyez, il va vraiment falloir faire un panel et On va essayer en fait de donner un espèce de score aux patients parce qu'on peut trouver une seule anomalie dans à peu près, on va en trouver à peu près dans 50% des cas, mais on va en trouver plusieurs dans des causes multiples dans au moins 10 à 20% des thromboses portes. Donc si on trouve une anomalie, il ne faut pas s'arrêter là, il faudra en chercher d'autres.
Et donc une fois ce diagnostic posé et cette cause identifiée, docteur Elkrief et docteur de recours, comment assurer la prise en charge et le suivi des patients atteints d'une thrombose de la veine porte ?
Le diagnostic étiologique, en général, il va falloir quand même plusieurs semaines pour avoir les résultats de ce bilan étiologique dont le docteur de recours vient de nous parler, et que à la phase aiguë, la prise en charge, elle est faite en hospitalisation le plus souvent et multidisciplinaire parce qu'elle implique les médecins, les hépatologues, les hématologues, les radiologues et également les chirurgiens qui doivent être à proximité. Donc, comme je vous disais, l'hospitalisation, elle est le plus souvent nécessaire. Et vraiment, la première étape, c'est de débuter un traitement par anticoagulant. Et ce traitement doit être débuté le plus rapidement possible. Et c'est vraiment la précocité du traitement anticoagulant qui va conditionner l'évolution et le pronostic des malades. Donc, une fois que ce traitement est instauré, en fait, eh bien, on surveille les patients en hospitalisation et on évalue l'efficacité de ce traitement et on apprécie l'efficacité de ce traitement par la disparition des douleurs abdominales, la régression du syndrome inflammatoire biologique, la reprise du transit intestinal lorsque les patients étaient en iléus. Et on les surveille de très près parce que même si c'est devenu très rare, la principale complication de la thrombose porte à la phase récente, c'est l'infarctus intestinal d'origine veineuse. Et l'infarctus intestinal d'origine veineuse, en fait, il est possible lorsque la thrombose atteint la veine mésentérique supérieure, qui est la veine de drainage de l'intestin. Et dans ce cas-là, eh bien, lorsqu'on a un doute sur un infarctus intestinal d'origine veineuse, eh bien, une chirurgie en urgence peut être nécessaire pour une résection du grêle la plus localisée possible. En fait, heureusement, depuis que le scanner est devenu l'examen de première intention et que les anticoagulants sont instaurés rapidement dans les services d'urgence, eh bien, l'infarctus intestinal est devenu une complication rare, moins de 2% des malades qui sont hospitalisés pour une thrombose récente de la veine porte dans les études récentes.
Alors, du côté hématologique, bon, il y a évidemment la mise en place du traitement anticoagulant qui est un peu particulier parfois chez ces patients pour deux choses. La première chose, c'est que classiquement, on commence en général par des traitements parentéral, par héparine. Il est vraiment recommandé de faire des HBPM, toujours, car il y a un risque quand même assez important d'une complication rare mais très sévère qui est la thrombopénie induite par l'héparine. Donc, il faudra bien surveiller les plaquettes et toujours préférer une HBPM en première intention. Ensuite, évidemment, ces patients, quelquefois, ont des insuffisances hépatiques associées ou des thrombopénies, des anomalies qui font que, quelquefois, le traitement anticoagulant est un petit peu compliqué à suivre et à gérer. Donc, je pense que là encore, il faut s'adresser quand même à des centres qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients quand il y a associé des insuffisances hépatiques. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut faire des traitements classiques HBPM relais par AVK ou utiliser les anticoagulants oraux directs. Alors, on reste encore assez, je dirais, traditionnel quand il y a des anomalies associées et quand les thromboses sont sévères. Mais évidemment, les anticoagulants oraux directs vont de plus en plus probablement remplacer cette stratégie thérapeutique, en tout cas dans les formes où les thromboses portes sont peu étendues et avec peu d'atteintes hépatiques associées. Et puis, il ne faudra pas oublier, évidemment, dès que le diagnostic sera fait, alors là, Laure a raison, c'est souvent des diagnostics qui sont faits un petit peu plus tard, vous n'avez pas une mutation JAK2 dans les 24 heures. Mais en tout cas, quand on a un doute sur la numération, il faut essayer d'avoir rapidement ces résultats pour instaurer, évidemment, si nécessaire, un traitement cytoréducteur et puis sinon traiter l'HPN parce qu'on sait que le traitement de la maladie sous-jacente est vraiment très importante pour éviter l'extension de la thrombose et la gravité de la thrombose.
Alors, on a beaucoup abordé l'aspect aigu de la thrombose de la veine porte. Qu'en est-il des situations chroniques et de leur prise en charge ?
En effet, on a beaucoup parlé de la thrombose porte récente et en fait, une thrombose porte, ça peut également être chronique. Alors, soit c'est une thrombose porte qui a été diagnostiquée à la phase aiguë et pour lequel la veine porte ne s'est pas reperméabilisée malgré un traitement anticoagulant de plusieurs mois. Et en général, on parle de thrombose porte chronique après 6 mois d'anticoagulant. Ou sinon, eh bien, c'est une thrombose de la veine porte qui est diagnostiquée au stade de thrombose porte chronique et c'est le cas lorsque eh bien, les symptômes initiaux sont passés inaperçus et que le diagnostic n'a pas été effectué à la phase aiguë. Alors dans ce cas, eh bien, le diagnostic il repose encore une fois sur l'imagerie et on note un aspect caractéristique qu'on appelle un cavernome portal. Alors, qu'est-ce que c'est un cavernome portal? Eh bien, l'aspect, c'est que la lumière de la veine porte n'est plus visible et il est remplacé par un peloton de petites veines ou un peu plus grosses qui sont situées autour de la portion de veine thrombosée. Et ces veines, on les appelle des veines collatérales. Alors, en fait, eh bien, c'est des veines qui débutent dans le système porte en amont du thrombus et qui s'abouchent dans le système porte en aval du thrombus. Et en fait, il s'agit d'un phénomène de compensation qui a pour intérêt de maintenir, ou au moins en partie, l'apport de sang portal au niveau du foie. Alors, pour mieux comprendre, en fait, il y a une image qu'on utilise volontiers, c'est celui du bouchon sur l'autoroute lors des week-ends de grand départ. En fait, eh bien, l'autoroute, et en l'occurrence la veine porte, est bouchée. Eh bien, on nous dit d'utiliser les itinéraires bis, et les itinéraires bis sont les veines collatérales qui constituent le cavernome porte pour contourner le bouchon. Alors, quelles sont les conséquences du cavernome porte? Eh bien, elles sont liées à ce qu'on appelle l'hypertension portale, qui correspond en fait à l'augmentation de la pression sanguine dans le système porte en amont de la portion de veine porte obstruée et donc en amont du cavernome. Et en fait, cette augmentation de la pression dans la veine porte, elle est liée au fait que même si il y a des veines collatérales, eh bien, elles ne sont pas suffisantes pour assurer l'écoulement du sang portal. Et puis là, on peut encore reprendre l'analogie avec l'autoroute les jours de grand départ. C'est que, bah, en effet, on sait tous que même s'il y a des itinéraires bis et qu'on les emprunte, eh bien, l'autoroute, elle va quand même rester un peu bouchée et elle va pas être complètement fluide. Alors, les complications les plus fréquentes de l'hypertension portale, ce sont les varices œsophagiennes ou dans l'estomac. Et ces varices, en fait, elles peuvent être à l'origine d'une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes ou gastriques. Et donc, par conséquent, eh ben, chez un malade qui est porteur d'un cavernome porte, il faut rechercher ces varices de façon systématique par une endoscopie digestive. Et si elles sont présentes, on met en route un traitement préventif dans le but de prévenir les hémorragies digestives. Et dans ces cas-là, eh bien, on a le choix entre soit proposer un traitement par bêta-bloquant non cardiosélectif, soit des ligatures par voie endoscopique à visée préventive.
Du côté hémato, pour le traitement anticoagulant, toute thrombose porte aiguë doit avoir un traitement d'au moins 6 mois. Et au bout des 6 mois, eh bien là, c'est là où il va y avoir vraiment tout l'intérêt du bilan qu'on aura fait au départ. Évidemment, s'il y a une maladie hématologique sous-jacente, comme un syndrome myéloprolifératif ou une HPN, évidemment, il faudra toujours continuer à le traiter. Il y a certaines anomalies qui vont systématiquement entraîner un traitement anticoagulant au long cours, hein, par exemple le syndrome des antiphospholipides, et dans ce cas-là, on fera des AVK, car il y a une contre-indication aux AOD. Et puis, c'est là où il y aura vraiment l'intérêt d'avoir une discussion multidisciplinaire, hein, les hépatos, les hématos, autour de la table, pour savoir quel patient va avoir un traitement anticoagulant au long cours. Alors, on ne dit pas du tout maintenant de traitement anticoagulant pour la vie, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce sont des traitements prolongés qui doivent être réévalués, et ça, c'est très important, de ne pas commencer... En fait, on sait très facilement commencer un traitement anticoagulant et quelquefois, on a du mal à l'arrêter. Donc, c'est là où il faut être, faire la balance bénéfice-risque en permanence, le risque hémorragique et le risque thrombotique. Le traitement anticoagulant chez ces patients est souvent compliqué avec les varices œsophagiennes, la thrombopénie, quelquefois l'atteinte hépatique. Donc, il faut vraiment avoir là une discussion multidisciplinaire et il faut vraiment se dire, tous les 2 ans, on revoit le dossier, on réévalue le patient tous ensemble autour de la table. Et De plus en plus maintenant, en tout cas, il y a une étude qui va donc, les résultats vont bientôt être publiés, où on a quand même tendance de plus en plus à faire des traitements prolongés chez ces patients par AOD.
Eh bien, merci mille fois, docteur Elkrief, docteur de Recours, de nous avoir éclairé sur la thrombose de la veine porte. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les maladies vasculaires du foie. À très vite.